De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Manon et Daniel de No Drama. No drama, no drama, no drama. Porque tanto peleo si terminas de mi cama. No drama, no drama, no drama. Porque tan orgulloso si al final siempre me llama.
Este es el cuerpo, me encanta, yeah. Pero te me queda tanto,
No drama, no drama, no drama. On peut parler justement en projet
Ah. Niveau projet. Là, on enregistre des nouveaux morceaux. On a des nouveaux morceaux à finir et dans l'idée de sortir un nouvel EP, je pense que ce sera le format. Sûrement en cassette au début de 2026. Voilà. Bah, on n'a rien à annoncer.
Super. C'est pour ça qu'on vous a fait venir.
Vous l'avez annoncé comment à la boîte à rythme que vous alliez faire un groupe avec une batterie?
Oh, elle l'a pris.
Ouais. Vous avez su trouver les mots ou...
Ouais, c'est vrai que la boss RC3, elle était vraiment pas très contente.
Ah ouais. Ouais. Elle a un nom ou pas?
Non.
La boîte à rythme.
Non, vous avez, son nom, c'est la boîte à rythme.
Ouais, ouais, c'est même pas une vraie boîte à rythme, non. En fait.
Ah bon, d'accord.
On fait tous les trucs sur ordi et après on les met sur une pédale de loop qu'on lance en concert.
Ouais. C'est juste des fichiers.
Des fichiers WAV.
Des fichiers WAV enregistrés quoi sur chaque piste. Ah. On dit boîte à rythme pour qu'elle se sente un peu plus. Enfin, c'est plus gratifiant pour elle, mais ouais. C'est pas.
Bon, c'est clairement juste un lecteur MP3 avec un switch pour le pied quoi.
Et ben c'est là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Lindy, toi. Tu transformes un truc, tu crades une situation, tu vois.
Et c'est Storm Merci qui personnifiait leur boîte à rythme en fait quoi. Ouais.
C'est-à-dire
elle était créditée comme membre
c'est
du groupe.
Génial, hein.
Elle avait un nom et tout, quoi. C'était Dr. Avalanche, ça s'appelait. Voilà.
C'est comme les Bérus, ils faisaient pas ça. Hein. Ils avaient pas le... C'est vrai qu'elle avait un nom, leur boîte à rythme.
Ah ouais,
célèbre boîte à rythme qui a été volée à un concert. Bon, j'ai plus trop l'anecdote, hein, mais.
Ouais. Et t'as plus
c'est
le
l'esprit. Non, j'ai rien de tout ça, mais je suis même pas sûr que ça existait. Ouais. Mais bon,
voilà,
c'est
un filet quand même, donc voilà.
Ah oui, non, c'est souvent sans filet.
Oui, c'est souvent sans filet.
On va pas se mentir.
On se rattrape des fois comme on peut, donc à la table, mais bon, voilà.
D'ailleurs, en parlant de sans filet, j'ai une question avec Romer. Bon, celle-là, elle est vraiment sans filet. Tu l'as lu, celle-là? Parce que même moi, je la comprends pas. Je pars toujours sur l'idée, j'aime bien le début.
Oui.
Et après, j'essaye de faire rentrer une question qui peut concerner les gens, tu vois. Mais là, ça marche pas bien. Alors attends, ça sort. J'ai dû voir un film de Romer. Romer filme plutôt le récit de l'action que l'action elle-même.
Viens. Dis-moi, est-ce que tu as déjà été amoureuse?
Non.
Mais si, j'en suis sûre. Tu as bien eu un petit garçon dans ta classe à qui tu as dit que tu te marierais avec lui plus tard, quand tu serais grande.
Ah ouais, bien sûr, quand j'étais toute petite.
Et depuis?
Rien.
Rien?
Non. Ou alors comme ça, si tu veux, il y a bien des garçons qui m'ont impressionnée.
Et alors?
C'est tout.
C'est tout? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu les as impressionnés, toi aussi?
Peut-être. En général, c'était des gens que j'ai vus un instant et qui ont disparu. Alors, je ne sais pas.
Comment ça?
Bah, regarde, par exemple, l'année dernière, en Italie, j'étais au restaurant et il y avait un garçon à la table voisine qui me regardait, on se regardait et on se souriait. Et puis, il est parti.
Un garçon de ton âge?
Non, un peu plus vieux, 16 ou 17 ans, je sais pas. J'avais 14 ans l'année dernière. Alors.
Mm-hmm. C'était un Italien?
Non, un Français.
Ah bah alors, vous pouvez vous revoir.
Peut-être. Même parisien, d'après le numéro de la voiture.
Alors tu t'attends à le rencontrer, comme ça, dans la rue, d'un jour à l'autre?
Oh, penses-tu?
Ah, mais si jamais tu le rencontres, qu'est-ce qui se passera?
Je sais pas.
Tu oseras lui parler?
Oh non.
Et lui, tu crois qu'il osera?
Peut-être. Mais en fait, tu vois, je crois pas qu'il m'intéresse vraiment. Il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'on se rencontre, enfin, tout. Et puis je m'étais imaginé que je le rencontrais, mais en fait j'y croyais pas. Puis maintenant il est trop tard. Autant que je le vois pas.
Mm-hmm. Je vois. En fait, j'aimerais rencontrer un autre, mais qui ne t'échappe pas.
Mais non, j'aimerais rien du tout. Tu fais semblant de pas comprendre, hein.
Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que je trouvais ça très vrai, surtout quand tu viens de voir un film de Romer. Donc il filme plutôt le récit de l'action que l'action elle-même. j'ai trouvé, est-ce que l'indie punk ne joue pas le récit du punk plus que le punk lui-même?
Tu dis ça parce qu'on a fait les Beaux-Arts et que... Ouais.
Je me suis dit, ils vont comprendre la question que je ne comprends pas moi-même. C'est le côté centré.
Ouais, ça serait peut-être un peu cynique quand même, donc je crois pas qu'on soit comme ça.
Ouais, on ne théorise pas autant que ça l'esthétique de nos musiques avant de les faire, en tout cas. C'est très drôle de le faire après.
Comme on fait, c'est le côté Beaux-Arts.
Ouais, c'est ça. Ouais, non, je crois que, ouais, comme disait Manon, c'est plus un peu une envie de mettre plein de trucs qu'on aime bien dans notre musique, plus que d'essayer de se distinguer par rapport à d'autres courants. Ou... Enfin, le punk, c'est tellement large. À quel moment est-ce qu'on se dit, je vais faire un groupe que de 10 beats, quoi, en 2025? Je trouve ça
anachronique.
Mais c'est marrant. Bah pas forcément, parce que on en parlait avec Manon quand après un concert. C'est des groupes qui ont des messages assez progressistes en général, quoi, sur les sujets de société comme l'antiracisme, l'antisexisme et tout ça. Du coup, il y a quelque chose de vouloir aller de l'avant dans le discours. Et un des côtés chouettes du punk, c'est que ces messages se renouvellent aussi avec le temps, avec les publics nouveaux qui arrivent, les générations qui suivent.
Ouais. Plutôt que se renouvelle, s'actualise.
C'est rigolo de voir un discours qui s'actualise et une forme esthétique proposée. Carrément. Qui, elle, reste
un conservatisme.
Ouais, un classicisme. Moi, j'ai une théorie là-dessus.
Oui. Ah oui,
moi je peux te répondre, toi.
Ah d'accord.
Après c'est qu'une théorie, hein. Oulala. Pour avoir fréquenté Philippe par exemple, Philippe Crust, prototype même de la personne qui n'écoute que du 10 bits, quoi. Je pense vraiment qu'il y a un truc qui rassure. Je pense que sur certains fonctionnements de pensée, le 10 bits te permet d'être apaisé. Et je parle très sérieusement là-dessus, quoi. Mm-hmm. Et ça te permet de te concentrer sur autre chose. Cette espèce de monomanie liée à ce rythme-là, ça te permet peut-être de te concentrer, pourquoi pas, sur le renouvellement des idées, quoi. Tu te confrontes pas à l'inconnu.
Donc tu consolides quelque chose de familier et que tu partages avec d'autres gens qui écoutent ce style de musique, qui jouent ce style de musique. Parce qu'il y a un bon côté à ça. Hein. Notre conclusion, c'était quand même que... On peut pas rejeter ça, mais ça nous semblait... On s'interroge un peu des fois sur ce truc entre les discours et une forme de un truc très traditionnaliste dans les codes vraiment à respecter, qui est parfois un peu étouffant.
Moi je pense vraiment que sur un truc de rassurance.
Est-ce que c'est pas la même chose aussi dans n'importe quel style aussi de musique aussi, quoi?
Complètement.
Finalement,
si,
voilà, si. Donc si vous décidez de faire du 10 bits, voilà.
Ah oui, c'était vraiment un exemple parmi d'autres.
Vous voyez vers l'inconnu aussi peut-être. Donc
Et on veut vous voir faire du 10 bits. Si vous faites un genre avec élégance.
Avec élégance.
Après, à côté du 10 bits, il y a le Crust qui est parti dans plein de directions différentes, quoi, ces 10-15 dernières années. Enfin, on peut pas dire que ces styles-là, ce soit purement rétrograde. C'est vrai, enfin, c'est pas les styles en eux-mêmes qui sont. Tu disais que ça perdurait un peu une tradition.
Je l'employais parce qu'il peut comporter quelque chose de rassurant et sympathique.
Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir, quand tu fais un groupe de 10 bits ou de Crust, tu sais que, pour le coup, niveau professionnalisation, c'est zéro dès le début, quoi. Et il y a quelque chose qui fait du bien aussi là-dedans. Ça au moins on sait que ça va pas sortir de cette cave, quoi.
Ouais, mais regarde Mob 47, ils étaient au Brésil, je pense vraiment que tu peux quand même jouer sur d'autres continents.
Complètement.
Les Crust japonais, les beats disclose, je veux dire, Total ils sont écoutés par.
ruine et de derrière.
Juste le début, juste le truc de batterie, je pense que ça met des gens dans des états seconds.
Oui, ouais, je suis d'accord.
De bonheur.
Là, c'est vrai qu'on se sent tout de suite à la maison, quoi. Quand il y a ça qui. Ouais, c'est vrai. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, c'est un peu le.
Puis il y a un cahier des charges aussi, voilà, qui est très précis aussi, dans le 10 bits aussi, voilà. Donc il faut pas non plus. Tu peux pas non plus aller à droite à gauche, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose qui est bien défini. Donc,
à droite le 10 bits sort un peu de droite
ça, c'est une bonne question, par contre, tu vois.
Il y a rien, on dit qu'ils sont un peu rétrogrades et passéistes, quoi. Enfin, c'est nos dramas, c'est Manon de nos dramas qui dit ça.
Ici,
non, mais elle vient ici, non, à l'émission,
à l'antre
du cross 10 bits, dire que c'est un truc. Ah bah voilà. Bravo.
J'ai l'impression qu'on déforme nos propos.
Parce que c'est ce qu'on retiendra, nous, tu vois, c'est ce qu'on dira d'ailleurs. Et on en rajoutera carrément.
Ah ouais, la prochaine fois qu'il voit Philippe, nos dramas, on dit que t'étais de droite.
Ouais. Le D de 10 bits, c'est droite. En fait, c'est
l'idée de faire un sac de tournée, en fait, ça vient de quelle période de Woodenpen?
Sac de tournée, donc c'est un fanzine qu'on fait tous les deux. Ça fait un moment qu'on avait un peu ça en tête. En fait, c'est un fanzine dans lequel on pose quelques questions à des musiciennes et musiciens sur comment ils organisent en gros leur sac quand ils partent en tournée. Nous, on a un peu nos propres petites manies, nos habitudes, et on voulait un peu savoir comment les autres faisaient. Et à travers quelques questions assez simples qu'on répète, enfin c'est les mêmes questions posées à chaque fois, les gens se livrent pas mal. Et donc l'idée, c'est de lancer une série. Là, on prépare le troisième numéro. Ça permet aussi de maintenir des liens avec des gens qu'on croise, qui viennent jouer à Toulouse ou qu'on a croisés en tournée, etc.
C'est vraiment parce qu'on attend, en fait, un fanzine de tournée, en fait, que ça soit le révélateur d'une expérience collective, et c'est pas du tout ce qui ressort, finalement. En fait, on dirait que c'est plutôt individuel, quoi.
Ouais.
On cherche à recréer une sorte d'intimité, c'est ça, en fait.
Oui, ouais, carrément. Plutôt, ouais.
Oui, intimité, c'est le bon mot. On voulait vraiment aller dans un truc de... Parce que, comme tu dis, une tournée, c'est une expérience collective, tout le monde est dans le van, et après t'es en concert, et tu rencontres plein de monde et tout, mais il y a aussi ces moments où, un peu de recueillement, et il y a toujours un moment où t'es un peu confronté à où est-ce que t'as mis ta serviette, dans quelle poche, pour la retrouver dans le noir. Au fin fond de voilà. En fait, en discutant pendant les tournées, on s'en rendait compte que bah il y a des façons plus ou moins obsessives de préparer ses sacs et de préparer ses sacs dans les sacs et ce genre de choses, et ouais, ça nous paraissait intéressant de un peu de construire un sorte de regard collectif, mais à partir de témoignages un peu individuels comme ça. On peut se reconnaître dedans, même si on part pas en tournée, mais qu'on fait de la rando ou des trucs comme ça. Enfin, il y a ces trucs un peu de préparation aussi. Ouais. Ça parle aussi des temps morts. On pose la question des livres. Est-ce que les gens ramènent des livres avec eux en tournée? Est-ce qu'ils les lisent souvent? Oui, on ramène des livres parce qu'on peut pas vivre sans livres. Et souvent, non, on les lit pas parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Enfin, c'est des choses un peu qu'on retrouve comme ça. Un peu sympa de rester en contact avec des gens. Des gens qu'on a pu croiser sur la route, quoi.
Et donc il y a beaucoup de temps mort dans d'aller tourner.
Pas tant que ça.
Non, pas tant que ça.
Pas tant que ça. Parce qu'il faut manger, il faut regarder la carte, il faut. Il n'y a pas beaucoup de temps mort.
Regarder la carte. Tu regardes la carte papier.
Oui, bon, même.
Tu vas nous faire croire. Ouais, vraiment, vous êtes carte papier.
Alors, on peut te montrer nos téléphones.
Ah yes, c'est possible.
Oui, on a notre carte papier.
Ah ouais, yes, très bien. Eh, mais ce que vous dites, c'est un peu aussi la ville dans la ville, une ville dans la ville, une tournée, quoi.
Ouais, et un sac à dos, déjà, c'est un petit monde en soi.
Un petit univers. Ouais. Et puisqu'on a raté le placement de produit du début, tu viens de sortir une BD.
Je viens de sortir une BD chez les éditions Flubblub, FLBLB, un éditeur de Poitiers. Et ça parle d'un groupe de rock qui se monte à Toulouse, tiens, comme par hasard, au début des années 2000. Et qui essaye de composer, de répéter, de faire des concerts et de partir en tournée. Puis au bout d'un moment, il commence à se poser un peu les questions qu'on s'est posé au début de l'émission, à savoir est-ce que essayer de vivre de sa musique et de et de son art, c'est valable ou pas. Et voilà, ça parle un peu de tout ce petit monde et de tous ces gens qui... en fait, on voulait parler de 99% des groupes qui ne sont pas connus mondialement, mais qui font vivre la musique dans les salles et dans le monde, quoi.
C'est une autofiction
Ouais, complètement, ouais. Le livre s'appelle The Mops, c'est le nom du groupe, qui n'existe pas, mais il y a beaucoup d'expériences personnelles dedans, ouais.
Ouais, on peut reconnaître des lieux, des gens.
Ouais, carrément, ouais. Ouais, de Toulouse, ouais. Ouais. Sans être trop spécifique, mais c'est sûr. Il y a les pavillons dedans, genre de choses. Cette bande dessinée, je l'ai faite avec le dessinateur Autoté, Thomas Dupuis, un des fondateurs de la maison Flubbelub. Et moi, j'ai fait le scénario sur ce bouquin. J'ai pas fait les dessins.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir.
Cool de papoter de tout ça.
Toutes ces questions qui nous travaillent un petit peu et qu'on a. Ouais, des fois, on garde un peu en nous. C'était chouette.
Bah, on se quitte donc avec Super Chunk.
Chunk.
Ouais, Chunk, ça se mange, non? C'est des.
Chunk.
C'est du soja texturé.
Chunk.
Ouais. Bah ouais. Mais ça n'a sûrement rien à voir. Donc ça s'agrippe pas du tout comme ça. Bon, voilà, on les vend bien aussi.
Non, je pense on est quand même premier sur la promo quand même. Donc
super
c'est vrai que
Chunk.
Ouais.
Le super soja Chunk avec What a Time to Be Alive. Qu'est-ce que t'en penses de cette prononciation?
C'est super.
Ah, c'est bon. Il est vraiment gentil parce que vraiment c'était nul.
En plus, on le fait au effort quoi. Ouais. C'est clair. Là, ouais.
Bon, en tout cas, merci. Bon retour. Ouais. À très bientôt.
À bientôt.
Et puis,
la bise.
Allez, super Chunk.
Ouais, allez, bise. Ciao.
Salut, bye. Some kind of life.
drama, no drama.